Begin your transmission now.
Transmission. Morey.
Morey.
Live.
Avec Dominique Morey.
Oui, merci.
Live.
Radio X.
On n'a pas de thème encore, mais ça va se faire. Ça va se faire. Tout va se faire. Tout se fait. Tout se fait, tout se fera. Tout a été fait. Guillaume Rousseau, comment ça va?
Ça va bien toi-même?
Oui, Guillaume Rousseau, nouveau chroniqueur qui fait partie déjà de la famille et sera de retour dans la nouvelle saison de Morey Live qui va débuter mi-août, alors qu'on sera en pleine campagne électorale. Les pancartes vont-elles être des poteaux, Guillaume, d'après toi, les échéances et tout? Je pense pas, hein?
Non, habituellement, c'est un petit peu plus que 30 jours, donc ce qui nous mène plutôt à la toute fin août, au début septembre.
OK, parfait. Plongeons, Guillaume Rousseau, tu parles de quoi ce matin? Tu peux commencer par un genre de bilan, un peu comme on a fait avec Joanne hier. Bilan facal, tu peux commencer avec Fréchette. Bilan Fréchette. Fréchette hier qui était tout sourire avec Carney, qui a peut-être négocié à la baisse un deal avec le fédéral pour bien paraître avant les élections. On ne serait pas surpris. Tu nous jases de quoi?
Ouais, faudra voir les détails. Ouais. Ben, c'est ça, écoute, je pense que c'est l'heure d'un premier bilan pour Mme Fréchette. Et en faisant ma revue de presse, que ça me tentait de faire un bilan de Mme Fréchette, de son gouvernement, mais aussi de la couverture médiatique, parce que ça a vraiment été en deux temps. Je trouve que dans un premier temps, ça a été trop complaisant. Tout le monde parlait d'un sans-faute. Hein, je ne sais pas si tu as remarqué ça, les commentateurs, la presse, Radio-Canada, alors que ça n'a pas été un sans-faute. Quand elle a formé son conseil des ministres, Shirley Dorismond, la députée, est sortie parce qu'elle était très déçue, puis elle remettait en question son avenir. Gilles Bélanger, qui est un gros poids lourd de la CAQ, ici en Estrie, a démissionné. Fait que c'était clairement pas un sans-faute, mais c'était comme le narratif des médias, le récit. Alors ça, j'ai trouvé ça un petit peu particulier. Puis ensuite, je trouve que ça a été l'inverse. Quand elle a sorti ses baisses de taxes, là, je trouve que ça a été extrêmement critique. Alors que, puis je comprends un peu pourquoi, mais personnellement, moi, toute baisse de taxes, c'est bon à prendre. Après ça, on peut chipoter sur le moment, tel aliment plutôt que tel autre. Mais à la base, là, de toute façon, à la base, des taxes sur la nourriture, je trouve ça profondément problématique.
D'ailleurs, ce matin, pour ou contre l'élimination de la taxe, c'est resto. Il y a Restaurant Canada qui fait une sortie. Pour ou contre?
Ben, ça, ce serait une méchante belle annonce en campagne électorale. Je te dirais qu'il y a un parti qui ferait
Je suis pas un politicien, moi, je passe pas de même, mais t'as raison. Ils vont se garder ça, ils vont commencer la campagne d'un restaurant.
Exactement. Puis tu sais, comme Harper, t'en souviens la campagne électorale qu'avait fait Harper il y a une vingtaine d'années, là, qu'il avait baissé à TPS, là, puis là, écoute,
il a fait ça dans le magasin de la Rose.
Exactement, un coup d'image avec la facture, avec un peu sur le bord de la caisse enregistreuse. Il y a quelque chose à faire avec ça. Puis ça, c'est pour les travailleurs. Le monde sur la route, là, à un moment donné, quand tu travailles beaucoup, là, souvent, ben, t'es sur la route, puis tu peux pas toujours avoir le lunch. Fait que ça, c'est bon. Ah, c'est bon pour les familles aussi. Ah, ben, là, des fois, moi, j'ai trois enfants, puis des fois, il faut y aller au restaurant. Là. C'est pas vrai qu'on peut tout le temps passer notre temps dans les chaudrons puis dans la vaisselle. Là, c'est normal d'aller au restaurant. Oui. Fait que moi, je serais ouvert à ça, effectivement.
C'est très, très bon. OK, parfait. Mais toi, ton bilan, c'est quoi sur 10, Fréchette? Je trouve qu'elle tombe beaucoup dans la pièce de théâtre. C'est carrément une pièce de théâtre, là. Les chèques, c'est quand même cynique. Oui, je suis d'accord avec les baisses d'impôts en général, baisses de taxes, oui. Les peanuts, mais j'en mange pas. Puis les muffins non plus, là, mais ça a l'air que c'est populaire. Donc, OK. Mais moi, je trouve ça très cynique de sa part quand même d'émettre des chèques. C'est avec les chèques, il y a l'image que tu achètes des votes. Je suis désolé, là.
Ouais, mais émet des chèques. Que...
Ça fait partie de son annonce, ça, Guillaume, aussi. Là.
Mais moi, l'impression que ça me donne, puis c'est la même chose en 2022, c'est que je trouve que les commentateurs, c'est leur travail, puis ils le font bien, critiquent ça, mais je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, il n'y en a pas de problème. Donc, faut pas perdre de vue non plus. Là.
Oui, c'est nous autres qui pensons au croche. Ça va marcher, c'est ça que tu dis? Avoir un risque de remonter des sondages, c'est ça que tu dis?
Attendons voir, là, mais c'est pas impossible. Je pense que ça va être apprécié par monsieur, madame, tout le monde. Là.
OK. Ensuite?
Ensuite, j'ai suivi, comme toi, sans doute, les textes de Joseph Facal dans le Journal de Montréal.
Oui, c'est un striptease qui se poursuit, d'ailleurs, ce matin. Il parle des écoles, ce matin. Les écoles, ça va très bien, les écoles sont parfaites.
Oui, effectivement. Donc, puis tu sais, moi, j'adore Joseph, je le connais personnellement. J'admire son travail. Je suis ce qu'il fait parce que ça fait longtemps qu'il publie sur ces questions-là. Je te dirais que, je sais pas si tu connais l'expression là, qui dit « on est d'accord à 99 %, ça qu'on va parler du 1 %. » tu connais cette expression-là. Je l'aime beaucoup. Ce matin, j'ai envie de te parler.
On dit what's wrong, on parle pas de what's right. On aime bien ça de parler de what's wrong. On est fait de même.
C'est ça. Fait que dans ta série de textes, il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord, mais le matin, je vais te parler du petit bout que je suis pas d'accord. C'est son texte sur les tarifs. Donc, ce qu'il nous propose, ça fait longtemps qu'il propose ça, c'est de dire il faut, plutôt que de taxer plus et d'imposer plus le revenu, il faudrait, selon lui, augmenter les tarifs. Puis, il donne des exemples.
Pour le payage, je compte ça.
Ouais, exactement.
Mais vas-y, je t'écoute, Guillaume. Let's go.
Donc, tarifs d'électricité, frais de scolarité, frais de garde, taxes sur la consommation d'eau, péage sur les autoroutes, les ponts ou quoi. Puis là, ben, ça ferait plus de revenus pour l'État, ce qui est pas nécessairement le but de Joseph parce que c'est pas quelqu'un qui veut un État obèse. Puis d'autre part, dans le fond, le but de ces tarifs-là, ce serait de baisser les taxes, les impôts d'autre part. Hein. C'est donc ce qu'il nous propose. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Parce que qui sait, dans une société qui consomme beaucoup d'électricité, d'éducation, de services de garde puis d'eau, c'est les gens qui ont des jeunes enfants, puis particulièrement ceux qui en ont plusieurs. C'est carrément ce qu'ils nous proposent, c'est une prime à l'infertilité. Là. C'est que si vous n'avez pas d'enfants, ça veut dire qu'on va baisser vos taxes, on va baisser vos impôts full pin pour les célibataires sans enfants, mais les familles vont passer à la caisse. C'est-à-dire, à l'heure où on a un problème de dénatalité, ça n'a aucun sens. Puis Joseph, il fait du bon travail depuis longtemps, mais là, j'ai l'impression que cette idée-là, ça fait 20 ans qu'il la met de l'avant, mais là, il faudrait qu'il la mette à jour. Là, il y a des statistiques qui sont sorties, on est rendu à 1,3 enfants.
Quand tu dis cette idée-là, Guillaume, tu fais spécifiquement référence à quoi? Parce qu'il y en avait 6-7 idées sur lesquelles je n'étais pas d'accord.
Je te dirais les hausses de tarifs en général, mais particulièrement les 4-5, je viens de te nommer, les services de garde, l'éducation, l'eau, l'électricité.
Oui, c'était dans
les
familles. Oui, c'était bing-bang.
Exactement.
Oui.
Exactement. Ton bing-bang fiscal, là, c'est un enfer fiscal pour les familles. Je suis désolé, là, mais ça n'a aucun... À l'heure où il y a 1,3 enfants par couple, tu sais, il y a 20 ans, quand Joseph proposait ça, puis qu'on était dans un mini-baby-boom après l'assurance parentale des CPE, qu'on était à 2 enfants par couple... Ça avait du sens de proposer ça. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Fait que je trouve qu'il ne s'est pas tout à fait mis à jour, notre ami Joseph.
Très
là,
bon.
Sur ces questions-là. Ouais.
Très bon. Là, je parle à l'avocat. L'avocat. Je te mets... absolument. Je veux que tu parles d'une histoire qui n'a pas du tout été jasée au Québec, alors que ce n'est pas un tribunal de l'Alberta. Là, c'est vraiment un tribunal du Québec, la Cour du Québec.
Ben oui.
Un juge
qui a tranché.
Pour nous en parler, puis Radio X pour en parler pendant 2 jours, mais là, visiblement, c'était peut-être passé encore pour Radio-Canada, qui vont peut-être nous en parler la semaine prochaine. Surveillera ça, le légionnaire. C'est l'histoire du Tunisien qui a battu sa femme, puis pas de mince façon. Là. Il a écrasé une cigarette qu'elle a allumée dans le mauvais temps du Ramadan. Le soleil n'était pas couché, là, donc j'imagine que c'était la pleine sobriété. Elle a osé avoir du plaisir. Il a écrasé ça sur le bras. Résultat, il y a une passe gratuite avec 200... Ouais, plus que ça, effectivement.
Non,
il a arraché les cheveux,
des
coups
de pied.
Non, non, exactement.
Puis il était enceinte, en plus, hein?
Oui.
C'est une histoire,
le gars, c'est un enfant chienne, on va se le dire. Mais le gars ne va pas en prison et il y a 240 heures de travaux communautaires parce qu'il attend ses papiers, comprends-tu, que... Faudrait pas l'envoyer en plus en Tunisie. Sa mère a vendu la maison, il n'y a pas d'amis, il y a le taux de chômage qui est élevé, gna gna gna. L'avocat, il dit quoi? Mets ton chapeau d'analyste juridique.
J'ai regardé le jugement, d'ailleurs, que tu as partagé sur les réseaux. Puis ça, je salue ça, parce que souvent, les médias, on commande des jugements. Parce que ça, monsieur, madame, tout le monde n'a
jamais
pas les banques de jugement.
Lisez au complet avant de commenter.
Exactement. Fait que moi, je suis allé le lire. Puis le pire là-dedans, c'est que souvent, quand on voit des décisions comme ça, on a le réflexe de dire, bon, mais c'est peut-être une décision isolée. Peut-être que ça arrive. On a un bon système judiciaire, mais de temps en temps, il y a des mauvaises décisions. Puis c'est pour ça qu'il y a des appels qui sont possibles. Mais là, dans ce cas-là, ce qui est le plus troublant dans la décision, à part évidemment les faits et la violence conjugale, c'est que le juge se base sur toute une jurisprudence. Donc, il nous dit pas, moi, j'invente la règle comme quoi il faut tenir compte du statut d'immigrant, du criminel. Non, non, il dit, ça arrive souvent dans la jurisprudence, la cour d'appel, puis tout, c'est normal, puis c'est pas obligatoire, là, c'est comme un pouvoir discrétionnaire du juge, mais il y a vraiment toute une jurisprudence, c'est-à-dire un ensemble de jugements qui dit, ouais, un juge peut tenir compte que c'est un immigrant, puis décider de donner une sentence moins sévère, une absolution, dans le fond, conditionnelle dans ce cas-là, pour pas nuire au processus d'immigration, puis éventuellement à l'accession au statut de résident permanent. Écoute, c'est scandaleux, puis une des raisons pourquoi c'est extrêmement déplorable, là, c'est que ces gens-là, souvent, les immigrants, en fait, les crimes sont ce qu'on appelle intra-communautaires. C'est-à-dire que des immigrants vont avoir tendance à commettre des crimes contre la personne, contre d'autres immigrants ou des immigrantes, dans ce cas-ci. De la même façon que des natifs vont commettre des crimes plus contre des natifs. De sorte qu'en donnant des peines moins sévères à des immigrants, qu'est-ce qu'on fait? On donne des peines moins sévères quand la victime est immigrante. C'est ça qui arrive ici. Là. C'est comme, ah, ben elle, tu sais, c'est une immigrante, puis elle... Dans le fond, c'est comme si c'était moins grave hein, qu'elle se fasse battre. C'est comme si c'était un peu la tradition d'un pays, puis c'est un peu c'est des immigrants, donc faut pas être trop sévère. Ça n'a aucun sens. Là. C'est ce genre de façon de penser là. C'est extrêmement problématique.
C'est une décision
autres, parce que ça woke. Défère les immigrants.
C'est une décision woke.
Ben, ouais, effectivement, le fait de dire il faut comme.
Faut le comprendre, c'est sa culture. Faut le comprendre, il fait pitié. Faut le comprendre, il est en attente de papier. Faudrait pas y nuire. Puis c'est un bon garçon, puis il a jamais rien fait avant. Il était pas ici avant. Il a jamais rien fait avant.
Effectivement, ça faisait pas longtemps qu'il est arrivé quand les faits sont survenus. Là. Effectivement, c'est une vraie problématique, puis il y a plein d'autres. Hein. Pour les Autochtones, ça arrive aussi que les juges disent qu'il faut tenir. C'est
mais
même
c'est
simple,
comme nous expliquait Boisvenu. C5, le bill C5, donc il ne faut pas punir les Noirs, c'est carrément dit là, dans le projet de loi, et les Autochtones. Il y en a trop en prison et ça ne représente pas la proportionnalité de la société. Ouais, mais c'est moi, ça. Dans mon livre, on ne fait pas de la sociologie. Si tu as fait un crime, tu t'en vas dedans. Là. On ne commencera pas à dire, OK, parfait. Il y a 1,2% de Russes, mais il y a 5% de Russes en prison, donc on va libérer des Russes. C'est quoi ça, cette mentalité-là?
Si on est pour faire de la sociologie, ben faut en faire jusqu'au bout. Ça veut dire de dire, OK, peut-être qu'il y a plus de crimes dans telle ou telle communauté, mais il y a aussi plus de victimes de crimes dans telle ou telle communauté. Oui, les Autochtones, quand ils font des crimes, là, c'est souvent contre d'autres Autochtones. Là. C'est pas nécessairement contre des non-Autochtones la plupart du temps. Donc, avec des logiques comme ça, on pénalise les victimes des groupes où il y a le plus de victimes. Donc, c'est ça le pire. Mais tout le système est pensé pas pour les victimes. Tout le système est pensé pour les criminels. Si tu lis la Charte canadienne, là, il y a des droits pour les criminels, les accusés, là, à pu finir. Puis il n'y en a pas pour les victimes. Puis je te dirais même que si jamais on voulait intervenir dans ce dossier-là, là, puis dire, bon, mais ça, c'est fini. Là. On interdit aux juges de donner des sentences plus clémentes sous prétexte que le criminel est immigrant. Si on fait ça, là, probablement que ça va être contesté en vertu de la Charte canadienne, puis qu'il y a des juges qui vont nous dire que c'est une peine cruelle et inusitée, puis que le législateur n'a pas le droit de faire ça. Si jamais les conservateurs, ce serait leur genre, décident d'intervenir, attends-toi à ce que ce soit contesté, puis que ça puisse être déclaré contraire à la Charte canadienne. On est rendu là.
Répétons-le, tu étais co-auteur du rapport sur la laïcité. On a entendu. Ben, il fallait le dénoncer, là. Le paquet raciste, la Shawinigan, il fallait la dénoncer. Mais qui sont-ils maintenant?
Mais
c'est un peu particulier.
N'importe quoi.
Mais en même temps, pas de vidéo, c'est la seule photo. Bon, puis en même temps, faut pas. Je suis un peu d'accord avec Mario Dumont aussi. Il y a d'autres, là. C'est parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas non plus 450 000 là, à brûler des croix partout. Tu sais, il faut relativiser, faut pas tomber dans une panique sociale. Ceci étant dit, moi, je veux t'amener sur quelque chose qui a été souligné par Véronique Prince de Radio-Can. Je veux l'écouter, je veux t'entendre là-dessus.
C'est un courant qui nous vient très certainement aussi des États-Unis avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais les élus ont évidemment un rôle à jouer. Là. Ils sont pas responsables de tous les maux, mais ils doivent quand même essayer non seulement de trouver des solutions à ces maux-là de la société, mais ils ont aussi la responsabilité de ne pas alimenter les discours haineux en faisant attention à leur propre discours, surtout à l'approche d'une campagne électorale où il sera toujours tentant pour eux d'utiliser ce que les anglophones appellent de la wedge issue, hein, de la politique de division. Le sujet de l'immigration, de la laïcité, de l'identité, je ne dis pas que c'est ça qui est à l'origine de ce genre de mouvement.
Ouais.
Mais ce qu'on sait, c'est que ça a un potentiel très clivant. Bien évidemment que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, au contraire, mais les élus doivent toujours garder en tête que, justement, il y a le potentiel explosif et la responsabilité qu'ils ont par rapport à ça.
Elle a raison sur le fond. Mais en même temps, PSPP hier disait « Les extrêmes, on veut rien savoir de vous autres. » Effectivement, je suis complètement d'accord. Les fous d'un bord, les fous de l'autre, tassez-vous. On peut-tu rester dans le milieu? Mais il faut continuer, Guillaume, de parler d'immigration. On n'a pas le choix, là. Nos écoles débordent, services de garde. Il y a quand même une cause en Cour suprême là, concernant les services de garde pour les réfugiés. Tu sais, je veux dire, il faut en parler, là. Il ne faut pas se faire museler par ça, là. Vas-y, je te laisse une dernière minute pour conclure.
Oui, autant, tu as raison, il faut en parler, c'est une vraie question de politique publique. Ensuite, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on en parle, parce que contrairement à d'autres sujets de politique publique, ça touche vraiment des personnes en chair et en os, certains qui pourraient être retournés dans leur pays, donc c'est très délicat comme sujet, il faut faire attention. Mais par contre, quand on dit qu'il faut faire attention dans nos discours politiques, c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand on a un discours plus critique des politiques d'immigration, mais l'inverse est vrai aussi.
Oui.
Parce que moi, pendant la campagne électorale de 2012, OK, j'étais au QG du Parti québécois, je travaillais pour Mme Marois, puis je peux te jurer qu'à chaque fois qu'on sortait pour la laïcité, pour le français, on recevait des menaces. Puis qu'est-ce qui s'est passé le soir de la victoire, l'attentat du Métropolis, par un fainé, un fou furieux, mais qui avait été alimenté par des discours extrémistes, antinationalistes, antisouverainistes. Fait que moi, je veux bien là, qu'il faut faire attention quand on tient des discours politiques, mais c'est vrai aussi pour ceux qui, comme Sol Zanetti hier, embarrent un petit peu épais dans leur antinationalisme. Oui. Là, je pense qu'eux autres aussi devraient faire attention.
On va rester calme. Merci beaucoup, Guillaume. Bonne
de
semaine.
Rien, plaisir.
Salut,
ciao.
Bye. 8h21, Mathieu Bocoté au retour.
Morel.
Petite pause. De retour dans un instant. Radio X.